Merci Philippe. Donc on va lancer le débat au travers de cette question qui a été posée. Je pense qu'effectivement, pourquoi ne pas intégrer dans nos cours de finance un cours de déconstruction de la comptabilité pour amener le nouveau modèle que Jacques et Alexandre ont lancé.
Oui, donc, juste pour rebondir par rapport à ça, sur les liens entre terre et la finance, on a un papier éventuellement qui va être mis dans les bases.
Oui, voilà. Vers la ferme.
Dans la ferme.
Voilà. Parce que Frédéric a. Il y a une ferme que Frédéric a montée qui collecte toutes les contributions que vous voulez faire, pas des ouvrages comme on les a par ailleurs. En plus, il y a des droits d'auteur, mais des papiers d'humeur, des recensions d'ouvrages, des contributions pour des papes de l'art. C'est vrai que ça. Et donc, vous lui envoyez, s'il veut bien les ajouter, vous lui envoyez et on le met dans la chaîne.
Oui, c'est pas une question à poser à Jacques Deschamps, mais c'est une proposition. Et je veux dire de quoi il s'agit, c'est que l'année dernière, en juin, les constitutionnalistes de la Sorbonne avaient fait un colloque où ils s'étaient adressés à un certain nombre de personnes qui avaient fait des propositions en rapport avec la notion de constitution en dehors de leur domaine. Et ils m'avaient demandé en particulier de parler de ce qu'ils appellent une constitution cosmopolitaire, c'est-à-dire donc quelque chose de l'ordre du mondial. Et j'avais fait la proposition suivante, c'était à partir de l'observation que dans les contraintes qui portent sur notre vie quotidienne, et en particulier sur la vie économique, financière, sur le monde du travail, que les règles comptables constituent une détermination qui mériterait qu'elles soient exprimées de manière explicite, par exemple au niveau d'une constitution. Et j'avais fait la proposition suivante, et c'est celle-là que je vous soumets, au niveau mondial, les principes sous-jacents des règles comptables soient exprimés de telle manière qu'il y ait un assentiment explicite et non implicite à ces règles. D'autant que, à l'opposé d'une constitution, ce sont des organismes privés, où les nominations se font selon un processus, je dirais, de type imaginéoclique, auto-cooptation, qui se font. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'une explicitation au niveau de ce qui serait une constitution cosmopolitaire des véritables principes fondateurs des règles comptables à l'heure actuelle ?
Ah ben, il est évident que nous sommes d'accord avec cette idée. Je précise d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, comme la quasi-totalité des États largement influencés par la puissance américaine a entériné en quelque sorte ce code qui est dans ma sacoche à l'échelle mondiale, il est évident qu'il existe quasiment une constitution mondiale de la comptabilité. Le problème, c'est de trouver les forces qui feraient une contre-proposition. Et là, moi, il faut qu'on en discute. Il y a beaucoup de gens ici qui discutaient avec Thierry Martini. Nous cherchons des appuis. Il y a des appuis divers, déjà, à l'heure actuelle. Bon, c'est pas forcément qu'ils sont adhérents à toutes les idées, mais le cercle des Bernardins, les mouvements des communs, l'économie sociale et solidaire. Le problème, c'est d'avoir une fédération des forces. Mais moi, nous sommes preneurs, il faudrait qu'on discute sérieusement de cette affaire. Du côté des syndicats, on essaye de les fédérer, c'est pas une mince affaire non plus, mais il y a quand même, sur cette question comptable, à partir de ce principe, triple principe, qui paraît normal, triple conservation de tout ce qui constitue la base d'une entreprise, il y a une certaine adhérence. Mais reste à concrétiser ça. Nous on n'est pas des politiques, hein. Enfin, en tout cas pour moi, je parle pour moi, et c'est pas évident de trouver la bonne cible et de voir comment on procède aussi. Voilà.
Si je puis me permettre que chacun donne son nom et prénom pour faciliter la retranscription quand vous nous intervenez.
Je voulais juste dire une chose pour le. Parce que Moi, il me semble que peut-être, en théorie du moins, une approche constitutionnaliste globale pourrait aussi peut-être s'appuyer sur des problématiques environnementales, capitales, naturelles, qui sont quand même un peu globales par ailleurs, à l'exception américaine, évidemment.
Michel Levasseur.
Oui, juste, je voulais rebondir sur la remarque de Philippe Gillet sur l'hiatus entre sciences dures, sciences sociales, le problème de l'expérimentation, etc. J'appartiens à une société multidisciplinaire où il y a à la fois des lettreux, des scientifiques durs, des médecins et puis des gens comme moi. Et je faisais un petit exposé sur un domaine de recherche récente publié en finance. Et sur nos problèmes d'impossibilité d'avoir des échantillons aléatoires et d'avoir toujours des quasi-expérimentations et des problèmes d'endogénéité sévère à traiter, méthode D&D, etc. Et j'ai eu un intérêt très fort de la part de mes collègues médecins. Parce qu'exactement, elles trouvent les mêmes problèmes, ils utilisent les mêmes techniques. Et donc, nous ne sommes pas quand même dans un monde aussi isolé dans le mainstream, je suis désolé, mais voilà, on partage aussi avec d'autres des méthodologies de même ordre. Deuxième petite remarque, c'était par rapport à votre exposé, qui m'a beaucoup intéressé. Et si j'ai bien compris, votre problème est avec les processus sont en continu, en fait. Je veux dire, c'était la critique est apportée un peu sur ce point. Et si je me repose, il y a 50 ans en arrière, quand je découvrais la finance, au fond, à l'époque, il y avait effectivement les processus classiques qui arrivaient avec Samuelson, puis après, Merton, etc. Et en même temps, il y avait aussi tout le discours de Mandelbrot, des lois Pareto-Levi, etc. Et je crois que ce qui a dû faire le succès, quand même, l'utilisation des processus, c'était le fait qu'on ait rapidement des solutions fermées et qui étaient utilisables avec la technologie des à les moyens de calcul de l'époque. Et je pense qu'on ne peut pas séparer la technologie qui existe à un moment donné et les outils qui sont ensuite développés. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde, avec d'autres possibilités technologiques, c'est peut-être là où on peut espérer avoir un espoir de développement et d'aller au-delà. Voilà, c'était juste une petite remarque.
Merci. Roland a une question.
Un témoignage.
Peut-être que Christian va répondre avant.
Oui. Dans les années 70, on avait effectivement un dialogue déjà entre financiers et comptables, et qui était notamment du genre entre les collègues d'HEC de l'époque. Il y avait déjà quelques tensions liées au fait qu'en France, la comptabilité était très régalienne. Ne dure pas qu'en France, mais parce que ça avait été institué pour collecter d'impôts, pour servir de preuves, etc. Et d'autre part, des concepts comme le concept de valeur ajoutée, qui avait une influence très partie, c'était quelque chose de tout à fait incompris de nos amis américains. Donc, le concept de valeur ajoutée est tout à fait autre, comme vous savez. Et un certain nombre de nos jeunes ont été envoyés se former aux États-Unis, c'est-à-dire par la Flèche, et ont fait. En fait, ils ont découvert Olivia Miller, Covid, etc. Ils sont revenus avec, je veux dire, un peu formatés, de telle sorte qu'on avait, à l'association d'époque, qui s'appelait La Défi, on avait un truc, un groupe finance qui était, quand on comprenait comptable. Mais quand la FI s'est créée, malgré la position que nous avions, les financiers qui étaient formés aux États-Unis ont dit non. On fait de la finance à partir de modèles, d'expériences, variances, etc. Et les contrats se retrouvent, et du coup, on crée l'annexe. Et à partir de là, les produits se sont un peu fermés, même s'ils se sont développés en sophistication sur cette base. Et finalement, ce sont les deuxièmes qui sont finalement un petit peu plus ouverts, parce que quand il y a eu l'abandon, le crash du plan comptable à la française et l'entrée de l'IFRS, ils ont vu que finalement, c'est un peu comme des batailles quand ils se sont fait envahir par l'adversaire, disons, par le politique. Donc il y a tout un aspect histoire des institutions à mettre en perspective pour comprendre pourquoi on a cette incompréhension.
Je voudrais juste peut-être répondre au.
Oui, allez-y, Christian, puis après Laurence.
De la fois, du coup, je réponds aussi à votre question sur la comptabilité. Ce sera l'occasion de faire d'une pierre deux coups. La comptabilité, ça renvoie à la mesure des choses, à la mesure. Donc on mobilise en épistémologie une approche sur la mesure. Est-ce qu'en cette pièce, on mesure la hauteur, la profondeur, la largeur? Qu'est-ce qu'on choisit de mesurer? Il y a une question en amont, c'est quelles sont les variables qu'on va retenir. Et effectivement, la question se pose. Est-ce qu'on mesurait telle ou telle variable et ce qu'on en fera après. Ensuite, quand on a fait ces mesures, on passe à la modélisation. Et c'est une deuxième étape. Donc on a, dans les deux cas, des conventions de quantification. Donc la raison pour laquelle, dans le programme du séminaire, on n'a pas parlé beaucoup de la mesure, on en parle un peu, c'est que c'est en soi une question très très générale et très large, mais on l'aborde par la notion de convention de quantification. Mais pour rentrer dans le détail un tout petit peu technique, pour ceux qui ne connaissent pas, si je prends deux normes, IAS-39 et IFRS-17, quand on calcule avec ces normes une provision technique prudentielle sur un passif de bilan, même pour un engagement banal d'assurance vie ou décès ou santé, en fait, on a besoin de valider une hypothèse mathématique de martingale. S'il n'y a pas de martingale du point de vue de ce que le modèle présuppose comme dynamique sur les prix une fois qu'ils sont mesurés, il n'y a pas de calcul possible en comptabilité de provision technique. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que la comptabilité durcit des mathématiques dans ces normes. Donc les deux sont, interagissent, et donc c'est une réponse à double détente. D'une part, dans le cours, c'est un autre chapitre, sur la mesure, on l'aborde par les conventions de quantification, et en général, ça pose la question de l'articulation entre comptabilité, donc mesure, et hypothèse mathématique de modèle. Un SCR crédit ou un SCR taux, c'est en fait des calculs mathématiques pour la comptabilité. Ce n'est pas le tout de la comptabilité, mais c'est une grande partie. Alors ce qui amène à... Oui, la question de la continuité, on dirait que c'est plus large que des processus. En fait, on a des processus continus en temps continu et discontinus en temps continu. Donc c'est plutôt une manière de se représenter l'incertitude, au sens très large. Ensuite, moi, ce que je trouve intéressant en termes d'exploration épistémologique, c'est que c'est vrai que dans les années 70, les statistiques disponibles comme méthode n'étaient pas très robustes. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, que les besoins des modèles de Markowitz, Sharp et de Black-Scholes nécessitaient d'autres types de lois ou de processus. Mais ça pose une question. On dit finalement... On choisit des modèles mathématiques parce qu'ils sont commodes, même s'ils sont non corroborés. Autrement dit, intellectuellement, on décide de passer outre le retour d'expériences statistiques parce que, comme vous l'avez dit, un modèle mathématique est commode. Et là, on touche du doigt le fait qu'un choix mathématique, c'est un choix éthique. Et j'ai des articles de Granger et Or, Granger, prix Nobel d'économie ou d'autres, dans lesquels il dit « On sait bien que à des 60, 70, on n'a pas les comportements statistiques qu'il faut pour valider les modèles que, mais on décide de faire en sorte qu'on va oublier ce qui gêne pour pouvoir mettre en place en termes d'industrie ou de pratique des modèles à temps continu ou à, mettons, à espérance-variance. Rebelote dans les années 80, où on sait bien que l'assurance de portefeuille ne va pas être validée par la continuité des couvertures, et non, il n'empêche que, on décide de passer outre. Donc ce qu'on observe, c'est que il a été fait des choix mathématiques pour des raisons de construction de produits qui volontairement ont évacué le retour statistique d'expérience qui malgré tout existait. Dès les années 50, dès les années 30, on trouve des statistiques qui invalident les hypothèses des modèles principaux. Et c'est donc là-dessus, je pense, qu'il y a une intrication entre choix mathématiques et choix éthiques. Aujourd'hui, évidemment, depuis les années 2000, ça ne se pose plus, mais là encore, ce qu'on voit, c'est que géographiquement, la géographie des contestations paradigmatiques des modèles dominants, elle se fait sur un périmètre qui entoure, on va dire, les États-Unis et l'Angleterre, et partiellement l'Europe. Autrement dit, depuis 15 ans, les principaux modèles, on va dire, à temps continu mais en discontinuité, ont été faits par des chercheurs allemands, norvégiens, suisses ou australiens. Ça tourne, en fait. Mais là aussi, ce qu'on voit, c'est que bien que ça existe, il y a des choix qui se font, qui sont des choix mathématiques et qui en fait sont des choix éthiques. Oui. Donc je suis d'accord pour l'aspect technologie, même si on savait bien qu'il y avait des enjeux, qu'il y avait des contre-indications, et je dis ça pointe bien l'enjeu idéologique.
Technologie et hasard de l'histoire aussi.
Parce que c'est la fin des changes fixes, c'est la guerre du Vietnam qui fait que brutalement les dérivés vont pouvoir être développés par les marchés à terme de Chicago qui étaient spécialisés sur les marchandises. Et il y a un besoin d'urgence de réponse de tout. Donc il y a aussi ce hasard, le hasard de l'histoire, je pense.
C'est... Oui, c'est vrai, il y a un besoin d'outils, mais alors la question, c'est celle que j'ai posée par Pierre Duhem en 1893. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Pierre Duhem. Il dit une équation qui est simple, commode, mais fausse, c'est tôt ou tard, par une revanche inattendue des logiques, la ruine financière, etc., etc. Donc déjà, Duhem repère que pour des raisons de besoin, on peut être amené à oublier un peu rapidement le retour d'expérience et à faire des choix mathématiques qui paraissent techniques, mais qui en fait sont porteurs d'enjeux en fait sociaux. Donc,
Laurent, c'est un commentaire ou une question ?
Oui, non, juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, les choix des modèles, c'est pas uniquement pour la structuration des produits qui sont commodes, mais en matière de régulation, si on prend des modèles VAR, par exemple, pour le calcul du capital des banques, alors que ça repose sur des lois avec des queues de distribution fines, et donc on sait très bien que dans les événements extrêmes, on n'aura pas assez de capital du fait, c'est pour des raisons, déjà le coût que ça serait d'utiliser d'autres modèles, mais aussi des propriétés d'additivité qui font qu'on peut décentraliser au sein de la firme la gestion du risque par risque en utilisant ce type de modèle. Il y a des raisons comme ça qui sont. Alors on peut se dire, en matière financière, ce n'est pas des bonnes raisons, mais
c'est juste. Juste, c'est pas technique, c'est important de voir que la VAR, c'est comme un verre. Ça dépend de ce qu'on met dedans. Mmh. On pourrait imaginer des VAR qui soient bonnes, seulement si on mettait de l'eau de whisky. Voilà. Si on met des VAR avec de l'eau, c'est whisky, vous voyez, ça dépend de ce qu'on met dedans. Il ne faut pas être contre la VAR, mettons, en tant que telle, mais ça dépend de ce qu'on met dans la VAR pour le calcul du capital. Voilà. Moi, je ne serais pas forcément aligné avec un courant de critique qui va dire l'avare comme instrument, c'est dangereux. Et l'avare, c'est en soi vide de ce qu'on met à l'intérieur. C'est, voilà.
Alexandre, tu as une question ?
J'étais un commentaire. Mais actuellement...
Roland, Philippe et Marc, et après on laissera le grand témoin conclure cette table ronde.
C'était juste pour dire, par rapport à la question de la comptabilité, c'est juste pour dire que ce n'est pas qu'une problème de mesure. C'est aussi une interrogation conceptuelle très forte sur, par exemple, les notions de capital, parce que le capital en comptabilité traditionnelle n'est pas le capital qu'on va retrouver en finance ou en économie contemporaine, ou d'ailleurs en comptabilité telle que défendue par les IAS, IFRS. Mais ça va bien au-delà de ça, c'est que. Et c'est pour aussi faire le lien avec la question qui a été posée sur les mathématiques. À la base, je suis mathématicien. Et sur, derrière tout ça, il y a des problématiques liées, des problématiques anthropologiques de l'expérience au monde. La société moderne, c'est la société du grand partage, entre nature et culture, entre technique et éthique, qui va bien au-delà des problématiques purement institutionnelles. C'est une vraie expérience au monde qui arrive à partir de la Renaissance. Et ça se voit dans la comptabilité. Par exemple, le bilan tel qu'il est fait actuellement, au XVIe siècle, hein, ça a été écrit, ça a été documenté. C'est une répartition entre les actifs qui vont être des actifs, des moyens qui vont renvoyer à la technique, et le passif qui va renvoyer à l'éthique et au droit. Et en fait, on a divisé déjà simplement l'économie, une certaine vision des choses. À partir de là, le bilan est déjà un bilan basé sur le grand partage. Et ça arrive justement dans cette vision de la séparation technique et éthique. Je vais donner l'exemple, parce que c'est totalement en lien avec ça, d'Alexandre Grothendieck, dans les années 70, très grand mathématicien, qui a été aussi un très grand écologiste, qui avait, dans son cours de Collège de France, en géométrie algébrique, voulu faire un cours de géométrie algébrique avec géopolitique. Parce qu'il considérait qu'il était absolument essentiel de nouer en même temps le cours technique de géométrie algébrique et ce que ça faisait en termes de géopolitique de faire de la géométrie algébrique. Alors, vous voyez le grand écart. Et il avait fait le cours. En fait, la direction du Collège de France lui a interdit de faire ce cours et lui a dit « Non, ce que vous pouvez faire, c'est faire deux cours. Un cours de géométrie algébrique et un cours de géopolitique. Mais surtout, vous ne faites pas le tout en même temps. » Et c'est exactement ça, en fait, qui est posé là. Et je pense que, encore une fois, la comptabilité est une bonne façon d'amener... Merci.
Merci. Philippe.
Non, juste une petite remarque pour peut-être réconcilier ce que. Enfin, pour. Oui, réconcilier ce que vient de dire Christian et la remarque de Michel Levasseur tout à l'heure sur la médecine, qui est tout à fait pertinente, c'est qu'effectivement, en finance, on prend des modèles dont on sait fort bien qu'ils ne sont pas pertinents et pas utilisables, on fait comme si. Mais en médecine, on ne peut pas faire comme si. Les conséquences sont beaucoup plus graves. Donc c'est peut-être en cela qu'ils sont supérieurs, que leur science est supérieure à la nôtre et qu'il faudrait peut-être prendre plus d'exemples de leur côté que nous ne le faisons.
Merci. Marc.
Oui, une brève remarque. Refonder la finance, bien sûr, présuppose le développement de nouveaux modèles. Il y a cette dimension technique, mais on a besoin aussi de réfléchir de manière différente, de manière non technique. Il s'agit de principes. Quel est l'objectif des modèles avant de se poser la question des hypothèses techniques? S'agit-il de servir le bien commun ou s'agit-il de servir des acteurs très puissants, des grandes banques ou des hedge funds? Ça, c'est la question de base. Après ça, on peut développer les modèles. Mais pour qui seront-ils utiles? À qui serviront-ils?
Merci. Je vous propose une conclusion avec le grand témoin qui est Gérard.